Dans l'actualité des idées, ce midi, faut-il repenser les droits de la Terre? Un mot revient en force dans le débat public, l'écocide. Que recouvre-t-il? Pourquoi faut-il faire progresser le droit international? On va en parler avec notre invitée que vous venez d'entendre dans le journal d'Antoine Mercier, la juriste en droit international Valérie Cabanne, spécialisée dans les droits de l'homme, militante du combat contre l'écocide, porte-parole du mouvement End Ecocide, on Earth, arrêtons l'écocide planétaire. J'ai fait une traduction assez rapide de la chose. Bonjour Valérie Cabanne.
Bonjour.
Après avoir participé auparavant à deux ouvrages collectifs, notamment Crimes climatiques Stop, puis Des droits pour la nature, vous publiez au Seuil, en cette rentrée dans la collection Anthropocène, un nouveau droit pour la Terre pour en finir avec l'écocide. En préambule, Valérie Cabanne, comment allons-nous, globalement, notre société ?
Eh bien, je pense qu'effectivement, nous allons mal. Et je crois qu'il est important, plutôt que d'être dans une sidération face à ce qui nous attend, il est important et urgent de sortir du déni. Nous avons franchi un certain nombre de limites planétaires. Ces limites planétaires ont été définies par le Stockholm Resilience Center depuis 2009. Ce sont en fait des limites au-delà desquelles la vie n'est plus en capacité de se régénérer. Nous avons dépassé la limite de CO2 dans l'atmosphère qui nous a engagés dans un changement climatique aujourd'hui irréversible. Et donc il faut effectivement essayer de le freiner. Nous avons dépassé un seuil d'érosion de biodiversité qui nous a entraîné dans une sixième extinction des espèces. Nous avons dépassé aussi un seuil d'acidification de l'océan qui menace aujourd'hui la vie marine. La pollution des sols et les rejets écotoxiques de façon globale aujourd'hui menacent la santé des générations à venir. Et nous savons aussi que nous avons trop déforesté.
Donc nous n'allons pas très bien.
Non, nous n'allons pas très bien.
Et l'environnement dans lequel on s'inscrit non plus.
Oui, alors je ne parle pas d'environnement parce que je voudrais vraiment, et je crois que c'est le sujet sur lequel je voudrais qu'on passe du temps. Il est vraiment important aujourd'hui de se remémorer, de comprendre que nous sommes la nature, que la nature c'est nous-mêmes. Il n'y a pas l'homme exclu de son environnement. Il y a des êtres vivants sur Terre qui sont interdépendants. L'humain est interdépendant de tous les cycles écologiques pour pouvoir obtenir sa nourriture, son air propre, son eau et tous les nutriments dont il a besoin. Et à partir du moment où effectivement on s'exclut de cet environnement-là, on se conduit d'une manière qui met en danger les conditions d'existence des générations à venir.
Alors c'est aussi à cette fin, pour nous rappeler ceci, et pas simplement cela, qu'a été organisé le week-end dernier un procès fictif à La Haye. Valérie Cabanne, vous êtes membre du comité d'organisation du tribunal Monsanto. Procès symbolique qui s'est tenu le week-end dernier, organisé par un collectif d'associations et d'ONG. Une trentaine d'experts et de victimes présumées ont été auditionnées par de vrais magistrats. La firme américaine Monsanto, spécialiste des semences OGM, y était accusée de violation des droits humains, crimes contre l'humanité et écocide. Dans les faits, bien sûr, elle était ni présente ni représentée à ce procès. Je vous propose d'écouter un extrait des conclusions de la présidente du tribunal, Françoise Tulkens, ex-juge à la Cour européenne des droits de l'homme.
Il y a une nécessité absolue de faire progresser le droit international des droits de l'homme. Et si ce n'est pas vous qui le faites, qui le fera? Regardez le débat qu'on vient d'avoir sur le crime d'écocide. Le crime d'écocide que l'on voudrait peut-être un jour voir inscrire dans le statut de Rome. Mais alors, je suis évidemment ce qu'a dit ma voisine, qui a été avocat général, qui a été procureur au tribunal pour le Rwanda et qui sait très bien qu'on ne pourra rien faire s'il n'y a pas une définition juridique précise de ce que c'est le crime d'écocide. Et donc voilà, il faut amener tout cela. Il faut amener, et en droit, il faut être à la fois patient et impatient. Il faut être patient parce que ça ne se fait pas en un jour. Mais il faut être impatient parce qu'il faut le vouloir. Et c'est ça qui apparaît aujourd'hui. Donc voilà le double objectif. À la fois donner des outils pour permettre aux avocats, aux juges, aux tribunaux d'aller plus loin et en même temps de faire progresser le droit international. Et si un jour, peut-être que vous le verrez ou que nous le verrons, je n'en sais rien, eh bien ça sera grâce à vous.
L'écocide qui est au cœur de votre essai, Valérie Cabanne, qui vient de paraître, Un nouveau droit pour la Terre, pour en finir avec l'écocide, un livre de combat, un combat juridique et existentiel à la fois au long cours et face à l'urgence, signe Dominique Bourg dans la préface de cet ouvrage. Que recouvre exactement ce terme d'écocide, qui d'ailleurs n'est pas nouveau, faut-il le rappeler?
Oui, il n'est pas nouveau, c'est un terme qui existe depuis peu dans le langage francophone. Ça fait 4 ans effectivement que je fais de la pédagogie sur ce terme, mais ça fait 50 ans que nous en discutons à l'échelle internationale, depuis l'usage de l'agent orange par l'armée américaine sur les forêts du Vietnam, du Laos, du Cambodge. Et Olaf Palme, en 1972, à l'ouverture de la conférence de Stockholm, le premier sommet de la Terre, a effectivement qualifié donc l'agent orange d'un crime d'écocide. Cela avait été évoqué d'ailleurs par un biologiste, Arthur Galston, dès 66, qui avait travaillé en 42 et 43 pour Monsanto, pour Bayer, sur des insecticides, des pesticides et des herbicides. Et quand il s'est rendu compte en 66 que les recherches qu'il avait menées pendant sa thèse servaient aujourd'hui à commettre un tel crime, s'est élevé le premier en utilisant ce terme de crime d'écocide.
Alors, terme qui est apparu à travers ou après différentes catastrophes environnementales, comme vous dites, puis qui a été repris aussi officiellement en 72, déjà au moment du sommet de la Terre de Stockholm par le premier ministre suédois, plus tard par une juriste anglaise, Polly Higgins, et on l'a réentendu à Rio, on l'entend beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il regroupe exactement?
Alors l'idée, si vous voulez, c'est que le crime d'écocide est un crime plus grave qu'un crime contre l'environnement au sens où on l'entend encore aujourd'hui, dans le sens où il s'agit véritablement de porter atteinte à l'habitabilité de la Terre, à la sûreté de la planète. C'est-à-dire qu'il peut effectivement recouvrir un champ qui ne va pas s'appliquer directement à l'homme. Le problème d'aujourd'hui dans le droit, et on le voit à la Cour pénale internationale, les crimes qui sont reconnus par la Cour pénale internationale comme étant les crimes internationaux les plus graves, sont toujours en lien avec l'humanité et ne reconnaît pas véritablement le fait que quand on détruit le vivant, quand on détruit des communs planétaires comme sont les océans, l'atmosphère, les pôles, les grands pôles génétiques, les espèces migratrices, à un moment donné ou un autre, il y aura des retombées pour les générations à venir et pour l'humanité et pour la paix. Donc ce terme nous oblige finalement à sortir du champ juridique actuel, à créer de nouvelles valeurs, à créer de nouveaux sujets de droit, à savoir d'une part les générations futures comme sujet de droit, c'est-à-dire comment aujourd'hui peut-on préserver les conditions d'existence des générations à venir devant la justice et donc ester en justice en leur nom. Et puis, ultimement, de reconnaître des droits à l'écosystème Terre et à ses cycles écologiques de façon à préserver la vie sur Terre.
Alors, le mot est accepté au Scrabble, vous le racontez d'ailleurs dans le livre, mais il faut maintenant le graver dans le marbre du droit international. On l'entendait dans la voix de Françoise Tulkens, qui a présidé ce tribunal fictif à La Haye la semaine dernière. Modifier le statut de Rome, c'est ce que vous demandez, statut qui régit la Cour pénale internationale pour que l'écocide devienne le 5e crime international contre la paix, aux côtés du crime contre l'humanité, du crime de guerre, du génocide et du crime d'agression. Vous allez nous dire peut-être quelles avancées procédurales cette reconnaissance permettrait-elle, mais criminaliser l'écocide, pourquoi? Pourquoi c'est important aujourd'hui de faire évoluer le droit international? À quelle lacune ça répond?
Ça répond justement au fait qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas discipliner les activités industrielles qui polluent et qui effectivement menacent de façon globale les conditions d'existence des personnes actuelles et des personnes à venir. Justement en reconnaissant qu'il nous faut préserver cet écosystème Terre et que cela va au-delà des victimes présentes. Cela, effectivement, va au-delà dans le sens où on doit pouvoir réfléchir à comment reconstruire une gouvernance mondiale qui ne s'appuie pas simplement sur comment préserver d'une part la dignité humaine, d'autre part les intérêts économiques des États et des multinationales, mais véritablement créer des bornes. Et quand je parlais des limites planétaires tout à l'heure, l'idée derrière, c'est de proposé que ces limites planétaires deviennent des normes juridiques, des bornes à ne pas dépasser, des panneaux à 50 km/h sur la route de notre activité industrielle, de façon à discipliner, à créer un cadre contraignant qui permette aux investisseurs de savoir s'ils peuvent ou pas continuer à subventionner les grandes industries que sont l'extraction minière, les énergies fossiles, le nucléaire, les grands barrages hydroélectriques.
Mais il y a déjà un droit de l'environnement. Est-ce que tout ça n'a pas déjà été réglementé? Pourquoi est-ce qu'il faut créer une nouvelle incrimination? En France, par exemple, dans l'affaire de l'Erika, les tribunaux français ont reconnu le préjudice écologique. Ils l'ont inscrit dans le droit civil. C'était suite à l'affaire du pétrolier frété par Total qui s'était renversé, était responsable d'une marée noire qui avait souillé les côtes françaises. La Cour d'appel, c'était en 2010, avait reconnu ce préjudice. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Est-ce qu'il y a besoin vraiment d'une nouvelle incrimination en la matière? Pourquoi ce qui existe, l'existant ne suffit pas?
Alors, je vais vous donner cet exemple qui est tout à fait parlant. Le procès de l'Erika a conduit le juge à prôner une amende de 170 millions d'euros à Total et 13 millions pour préjudice écologique. Cette même année, Total avait fait 12 milliards de bénéfices. Nous savons aujourd'hui que ce type d'amende, donc de procès au civil, de procès qui vise finalement des entités morales et non pas des dirigeants et donc leurs décisions, ne va pas discipliner des comportements industriels dangereux pour tous. Il provisionne à l'heure actuelle ces futures amendes au cas où des procès arriveraient. Et le tribunal Monsanto à La Haye était justement là pour l'éclairer, pour mettre cette problématique en lumière. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, en tant que citoyens, saisir les cours contre une multinationale. Les différends qui peuvent être gérés à l'heure actuelle sont des différends entre multinationales et États. Mais à l'heure actuelle, des citoyens ne peuvent pas, ne sont pas ni armés, ni ont en règle générale les législations internes qui leur permettent d'aller face à une cour et de réclamer effectivement justice par rapport à des catastrophes environnementales comme nous avons connu avec BP dans le golfe du Mexique, Fukushima au Japon, le delta du Niger contaminé ou la forêt amazonienne en Équateur contaminée depuis 35 ans par des pollutions pétrolières. Il n'y a aucun moyen à l'heure actuelle justement de demander justice parce que la responsabilité pénale des dirigeants de ces multinationales n'est pas engagée.
Donc la reconnaissance de ce crime d'écocide par la Cour pénale ou par le droit international permettrait, un, une pénalisation, deux, que cette infraction puisse viser des personnes morales et physiques, trois, que le plaignant puisse tout de suite contourner les instances nationales pour s'adresser directement aux juridictions internationales. Une question d'Antoine Mercier.
Oui, j'aurais revenir peut-être aux questions de principe, aux questions idéologiques, puisque bon, vous écrivez, vous l'avez expliqué, donc écocide, éco vient du grec oikos, signifiant maison, et cide donc du latin oxidere, tuer. Et vous dites, l'écocide est le fait de détruire notre maison, la seule que nous ayons, la terre. On voit bien que si il faut défendre les intérêts de la terre, c'est au nom de l'intérêt de l'homme pour qu'il puisse continuer à y habiter. Pourquoi est-ce qu'il faudrait, dans ces conditions, retrouver une incrimination comme écocide à partir du moment où la finalité, ça reste tout de même pour l'homme de continuer, d'assumer, de pouvoir vivre dans cette terre? Est-ce qu'on n'est pas là dans une espèce de confusion où on mettrait des intérêts de la nature, finalement, peut-être avant ceux même de l'homme?
Non, il s'agit vraiment des intérêts des générations futures. Le droit aujourd'hui ne reconnaît pas l'intérêt à agir pour les générations futures. Pourquoi? Très simplement parce que ces personnes ne sont pas nées. Et le droit est construit, le droit international est construit pour protéger les intérêts des générations actuelles, présentes. Donc, en déterminant effectivement ce qui est dangereux pour les personnes qui naîtront dans 50, dans 100 ans, nous pouvons effectivement à ce moment-là créer une...
Est-ce que c'est le bon terme alors à ce moment-là, écocide, où on parle d'écocide, d'habitat précisément, alors que l'on parle des générations qui vont habiter et non pas de l'habitat?
Oui, alors vous voudriez en fait par exemple qu'on puisse parler de crimes contre les générations futures.
Par exemple.
Oui.
Alors, pourquoi est-ce qu'on sort de...
Alors philosophiquement parlant, je vous poserai la question, comment effectivement allez-vous aujourd'hui protéger par exemple l'océan dans cette acidification qui est en train de dissoudre littéralement les coquilles des mollusques, du plancton qui est à l'origine de toute la chaîne alimentaire, comment allez-vous, même au nom des générations futures, allez-vous prouver le lien actuel de causalité entre le fait que 800 millions de personnes dans le monde vivent de la pêche et vont à un moment donné ou un autre être privées effectivement de ces ressources alimentaires. Vous ne pourrez pas le faire de façon directe. Vous pouvez le faire par contre de façon scientifique en expliquant quelles vont être les conséquences pour les conditions de la vie sur Terre. Quand on parle d'un crime d'écocide, on ne parle pas de la planète Terre, on parle de la vie sur Terre. Et il faut, à ce moment-là, effectivement, amener ces deux notions en parallèle, à savoir reconnaître donc que les générations futures ont un avenir possible, mais reconnaître que ces générations futures sont ultimement liées, interdépendantes, comme nous le sommes nous-mêmes aujourd'hui, des conditions d'existence de tous les autres êtres vivants.
Un peu plus loin, vous écrivez dans l'introduction, ça demande pour nous occidentaux une révolution intérieure, philosophique, normative, afin de détrôner l'homme de sa suprématie sur la nature et de déconstruire l'idée même de nature telle que notre modernité l'avait posée. On voit bien que dans votre démarche, il y a une intention, idéologique pas forcément, mais en tout cas de vision du monde, de la place de l'homme dans la nature. Ce que vous ne dites pas forcément toujours très nettement dans le livre lui-même, mmh. où on revient à des choses plus techniques, à la fois sur les dégâts faits à l'environnement ou sur les questions juridiques.
Oui, ce que j'essaye de faire comprendre, et que les peuples autochtones ont parfaitement compris, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer la nature à l'homme, il ne s'agit pas de dire on va protéger la nature contre l'homme, ou de protéger l'homme dans ses intérêts à pouvoir exploiter la nature autant qu'il le souhaite, telles que les traditions effectivement judéo-chrétiennes et les Lumières les ont posées, c'est-à-dire de dire finalement la Terre est à notre service. Il ne s'agit pas d'opposer ces deux notions-là, il s'agit véritablement de proposer, d'inscrire dans le droit cette notion d'interdépendance et de considérer que l'humain est un maillon de la vie sur Terre. La vie a besoin de l'homme, mais l'homme a besoin des autres êtres vivants et de ses cycles écologiques pour pouvoir vivre en harmonie avec, effectivement, son environnement.
Et il y a aussi l'idée d'obtenir réparation, quelque part. C'est ce qu'évoque la marraine du tribunal qui s'est tenue à La Haye le week-end dernier, Marie-Monique Robin, auteure du Monde selon Monsanto. Elle explique en quoi ce moment a été unique, celui de ce procès fictif, et pointe la question de la confiance entre la société civile et le droit.
Je pense que sincèrement, cet événement, ce tribunal restera marqué d'une croix rouge dans nos mémoires à tous. Parce que nous venons de vivre vraiment un moment absolument historique, unique. Unique d'abord parce que des victimes et des experts sont venus du monde entier, 5 continents. Donc ils sont venus, ils ont pu échanger. Ça a été souvent douloureux, mais c'était aussi l'occasion de commencer, alors c'est Damien qui me disait ça, je trouvais ça formidable, l'occasion d'entamer ensemble un processus de réparation et de pansement des plaies. C'est aussi unique ce tribunal parce que la parole des victimes de la multinationale Monsanto a pu être entendue par un vrai tribunal. Vous êtes de vrais juges, c'est-à-dire que vous connaissez le droit et vous pouvez le dire. Et nous avons confiance en vous et ça c'est très important. De rétablir la confiance aussi entre nous, la société civile, et vous, qui représentez le droit.
Valérie Cabanne, où est la crise de confiance entre les citoyens, la société civile et le droit pour vous, qui êtes juriste ?
En fait, elle se situe au niveau politique, dans le sens où, effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans le journal, le droit qui est posé aujourd'hui par la Cour pénale internationale ne peut exister que si la volonté des États est là.
Donc, et elle n'est pas là pour vous aujourd'hui ?
Non, elle n'est pas là très clairement. Pourquoi ? Parce que la collusion des intérêts entre l'économique et le politique est beaucoup trop puissante. Le secteur privé peut financer les campagnes de nos politiciens. C'est un véritable souci et les politiques aujourd'hui n'entendent pas la demande de la société civile. Et je crois que ce qui s'est passé le week-end dernier est frappant dans le sens où j'ai vu des articles passer dans les grands médias français qui ont été buzzés de façon absolument extraordinaire, dans le sens où pouvoir effectivement donner cette tribune et expliquer que les citoyens sont en attente de justice et que finalement le droit est peut-être le dernier rempart avant la révolution, avant le soulèvement des peuples, nous ne nous rendons pas toujours compte, même si la crise économique nous touche aujourd'hui en France, mais que des millions et des millions de gens dans le monde sont en situation de précarité de plus en plus prégnante du fait effectivement de la dégradation du climat, de leurs conditions de vie, de la désertification, de sécheresse de plus en plus forte. Il y a 14 millions de personnes en ce moment qui sont en train de mourir de faim en Afrique australe, personne n'en parle. La crise syrienne a démarré sur une crise climatique et environnementale. Et donc oui, il n'y a plus confiance vis-à-vis des politiques pour influencer le droit, et donc nous demandons aujourd'hui aux juges d'être courageux et de créer des jurisprudences par leur jugement de façon à ce que le droit évolue, et nous l'avons vu par exemple très rapidement aux Pays-Bas lorsque un juge néerlandais a donné raison à des plaignants contre l'État pour non-respect des recommandations faites par le GIEC de façon à limiter le changement climatique. C'était extrêmement courageux de la part de ce juge parce que...
Mais la CPI, mi-septembre, n'a pas aussi annoncé qu'elle allait se pencher sur les crimes contre l'environnement? Il n'y a pas des choses qui avancent comme...
Alors, la CPI, la procureure, absolument, la procureure de la CPI a annoncé le 15 septembre qu'elle regarderait aujourd'hui des cas dans le cadre des crimes contre l'humanité, de destruction environnementale ou de spoliation de terres, de déplacement forcé de population. Et elle l'a fait sous l'influence de qui? Elle l'a fait sous l'influence de la société civile. Ce sont des ONG qui ont porté des plaintes au Cambodge, en Équateur, et qui ont fait céder la procureure sur cette interprétation.
Alors vous évoquez, Valérie Cabanne, les obstacles à la reconnaissance de la notion d'écocide dans le droit international, obstacles, vous dites, politiques, juridiques, économiques. Il y en a quand même un autre aussi, c'est la question de la preuve, parce que si ce crime ou cette incrimination est reconnue, il va falloir pouvoir prouver les dommages qui sont faits à la nature directement. Récemment passé sur Arte, un documentaire intitulé OGM, Mensonges et Vérité. C'était une enquête de Frédéric Castagnied qui évoque, là encore, les difficultés à trouver les bons arguments dans ce débat qui nous occupe depuis 20 ans et à s'appuyer sur des preuves scientifiques solides pour pouvoir concrètement prouver les risques pour l'environnement et la santé des OGM.
La controverse sur les OGM va démarrer vraiment dans les années 90. Il y a eu un article de Libération qui a vraiment mis le feu aux poudres. C'était Alerte au soja fou.
1996, c'était la première année. Quand le soja Roundup Ready est arrivé pour la première fois, on était en extase. Jamais dans toute l'histoire des États-Unis et de l'agriculture, aucune technologie n'a rencontré une adhésion aussi rapide et aussi complète. Ce type de culture permet d'obtenir un gain de rendement par unité de surface. C'est le moyen de nourrir le monde de demain.
90 à 100% des patients sont des enfants présentant des malformations. Ce n'était pas le cas avant en Argentine. Il est clair que ce problème est apparu et s'est développé après l'arrivée du soja transgénique et de son paquet agrochimique.
Pour faire moderne, il ne faut pas faire des aubergines avec du riz, il faut faire du riz avec des gènes d'aubergines à l'intérieur. Et ça, moi, franchement, je trouve que ce n'est pas une solution intelligente, c'est l'emploi stupide de la technologie.
Extrait de OGM, Mensonges et Vérité, diffusé le 11 octobre et qui sera notamment rediffusé sur Arte le mercredi 16 novembre. Valérie Cabanne, on connaît les arguments d'un côté de Monsanto, le semencier américain, qui parle de l'importance de nourrir la planète avec des demandes de plus en plus grandes et donc d'augmenter les rendements, ce que permettent les organismes génétiquement modifiés. De l'autre côté, on connaît aussi ceux des défenseurs de l'environnement et des risques évoqués. Mais en cas de reconnaissance de ce crime d'écocide par le droit international, qui aura la charge de la preuve?
Alors, l'idée qui a été proposée à travers la rédaction et cette proposition de texte de 17 amendements au statut de la Cour pénale internationale que nous avons rédigé dans le mouvement est véritablement de proposer au procureur de s'appuyer d'une part sur les limites planétaires définies par le Stockholm Resilience Center et qui font aujourd'hui l'objet d'un groupe de travail qui a été créé par Ban Ki-moon lui-même. Donc utiliser ces limites planétaires qui sont chiffrées scientifiquement pour pouvoir déterminer à quel moment le juge pourrait poser des mesures conservatoires, par exemple sur des projets industriels, en face de pré-projets qui s'avéreraient dangereuses et qui permettraient malheureusement de franchir ses limites. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire de proposer effectivement que le bureau du procureur s'appuie sur une expertise scientifique, un pôle scientifique qui pourrait être créé au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement et qui donc aura à charge d'instruire et d'enquêter et de faire des expertises qui soient totalement indépendantes. C'est bien la difficulté que nous avons avec le droit national. Nous l'avons vu en France, aucune des affaires sur l'amiante, la vache folle, le nuage de Tchernobyl n'a pu aller jusqu'au bout de son instruction parce que la justice n'est pas toujours totalement indépendante. L'intérêt de la Cour pénale internationale, c'est qu'elle a une compétence universelle, elle a des intérêts qui sont supranationaux, donc qui dépassent les souverainetés nationales, et elle peut donc effectivement s'appuyer sur des expertises indépendantes pour pouvoir effectivement construire la preuve.
Alors il y a un an, le 29 novembre dernier, au moment de l'ouverture, au moment de la COP21, vous aviez remis avec ce mouvement dont vous êtes la porte-parole, End Ecocide on Earth, un rapport, des propositions à Ban Ki-moon pour modifier le statut de Rome. On n'est pas très loin de l'ouverture maintenant de la COP22 qui aura lieu à Marrakech du 7 au 18 novembre prochain. Est-ce que vous pensez que cette question va être maintenant directement prise en compte par toutes les grandes instances internationales? Est-ce que vous espérez voir ce débat arriver sur les devants de l'agenda politique?
Alors, notre stratégie de lobbying est multiple. Nous avons effectivement remis les amendements, la proposition d'amendement à Ban Ki-moon pour qu'il en soit déjà informé, de la même manière que nous les avons remis à la présidente de la CPI. Le processus d'adoption d'un amendement sur le statut passe par les États. Donc nous menons aussi en parallèle un lobbying auprès de différents États, en particulier les plus vulnérables au changement climatique, ou ceux qui considèrent être spoliés de leurs ressources par des multinationales.
Alors, que dit la France, par exemple, en aparté?
Alors, j'ai aussi remis, effectivement, lors de la remise du rapport Lepage pour une proposition de déclaration des droits de l'humanité à François Hollande, le texte, qui a, le 25 septembre de l'année passée, dit au micro « Je trouve cette demande de reconnaissance du crime d'écocide extrêmement légitime, mais c'est trop tôt dans notre agenda, etc. » La France a des intérêts nucléaires beaucoup trop puissants. C'est elle qui a fait échouer les négociations pendant l'écriture du statut de Rome dans les années 90, au moment où effectivement le crime d'écocide avait été envisagé. Elle a réussi à faire plier le président de cette commission pour enlever cette mention dans le futur statut de Rome. Donc je n'ai pas d'espérance vis-à-vis des grands États puissants. Et là aussi, la CPI a un intérêt, c'est qu'elle est indépendante des Nations Unies, que les États qui en sont partis sont totalement égaux dans les votes. Et par exemple, les États-Unis qui n'ont pas ratifié le statut de Rome ne pourront pas poser de veto ou influencer les négociations au moment de l'Assemblée parce qu'ils ne sont pas là, tout simplement, ils ne sont pas représentés.
Donc l'espoir pour vous vient des pays les plus vulnérables, mais qui ne sont pas forcément les plus forts dans un rapport de force comme celui-ci.
J'allais vous demander quand même par quel miracle les moins forts allaient pouvoir emporter une décision aussi massive telle que vous la proposez, une transformation, un bouleversement aussi fort. Est-ce que le rapport de force aurait disparu dans la géopolitique?
Alors justement, c'est pour ça que je vais à Genève la semaine prochaine pour rencontrer les 85 États qui ont porté ce projet de traité contraignant sur les multinationales au niveau du Conseil des droits de l'homme, parce que ces mêmes États sont signataires de la CPI et que là, effectivement, dans les négociations sur un traité contraignant, ils vont se retrouver face à face avec des États comme effectivement les États-Unis ou la Chine, qui vont tout faire pour faire capoter les négociations. C'est beaucoup plus compliqué finalement d'obtenir un traité contraignant au sein des Nations Unies que de l'obtenir au sein de la CPI, puisqu'au sein de la CPI, sur les 124 États, vous en avez plus des deux tiers qui sont des États qui ont cette volonté de créer un cadre contraignant pour l'activité des multinationales et des États qui sont complices de ces activités-là ou qui les subventionnent, et que pour adopter effectivement un amendement du statut de Rome, il faut obtenir deux tiers des États partis à la CPI des votes de ces États. Donc il y a une double stratégie qui, à mon avis, peut être menée, c'est ce que je vais essayer de leur expliquer, en leur disant l'urgence est telle que vous devez aborder ce sujet de front en droit public et en droit pénal, et vous avez probablement beaucoup plus de possibilités de le mener en droit pénal international que en droit public où la soft law, le droit mou, c'est-à-dire un droit sans contrainte, on l'a vu avec l'accord de Paris sur la COP21, où les Américains ont placé à la dernière minute un schuld au lieu d'un châle, nous devrions au lieu de nous devons, et donc on fait en sorte que cet accord ne soit pas contraignant, il sera plus aisé finalement de créer effectivement un droit contraignant par le droit pénal international que par le droit qui se négocie au sein même des Nations Unies.
Vous dites que le droit, dernière étape, si j'ai bien compris, avant la révolution, mais finalement vous proposez que la révolution arrive avant la révolution, c'est-à-dire que les multinationales, les États, les grandes puissances acceptent d'avoir cette contrainte que vous leur proposez.
Non, les multinationales, un, n'ont pas leur mot à dire, deux, les grandes puissances n'ont pas leur mot à dire non plus.
Justement, elles le disent quand même.
Au sein de la CPI, et vous en avez parlé, c'est très important de rappeler ce qui s'est passé en septembre. La procureure s'est donné mandat de pouvoir poursuivre des dirigeants de multinationales, ce qui est complètement révolutionnaire au sein de la CPI, et effectivement sur des catastrophes environnementales en temps de paix, ce qui est là aussi complètement révolutionnaire. Donc il y a une volonté en interne, et je peux vous le dire là au micro, puisque j'en ai discuté avec certaines personnes qui travaillent au sein de la CPI, il y a une vraie volonté de faire avancer ces questions en leur sein, et la société civile doit effectivement se mobiliser pour le revendiquer haut et fort, de manière à amener des États le demander. C'est le cas au Burkina Faso. Le Burkina a été représenté au tribunal Monsanto. Le tribunal vient de fermer ses portes à Monsanto. Le tribunal, le Burkina Faso a réussi à mettre dehors, sous la pression de la société civile, un dictateur. Et aujourd'hui, cette société civile est déterminée à réunir chefs coutumiers, chefs religieux et ONG pour demander une audience à la présidence et faire porter comme premier État leader cette demande de reconnaissance du crime d'écocide au sein de la CPI. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans ces pays-là. J'ai des contacts avec pas mal de pays qui sont véritablement en train de dresser des stratégies à ce sujet.
Merci beaucoup à Valérie Cabanne, le point de vue d'une juriste et également d'une militante donc de ce combat contre l'écocide dans votre ouvrage qui est à lire, Un nouveau droit pour la terre, pour en finir avec l'écocide, ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil dans sa collection Anthropocène. Merci beaucoup à vous et merci à toute l'équipe de la Grande Table, Henri Leblanc, Jean-Christophe Brianchon, pour une fois je vais commencer par les garçons, à Claire Maillot, Clémence Marie et Inès McGriff pour leur aide dans la préparation, mais également à Farah Kéram, toujours sur le fil des réseaux sociaux. Je vous rappelle d'ailleurs que la Grande Table se like et se tweet, mais que vous pouvez aussi télécharger l'émission sur sa page sur franceculture.fr. À la réalisation ce midi encore, il y avait Perret Legras avec Jacques Hubert. Pas de lundi sans Tardi, le dessinateur qu'on retrouvera lundi prochain pour sa bande dessinée toute nouvelle. Et notre autre invité sera l'américain Joby Warrick pour un ouvrage consacré à Daesh.